Salut, moi c'est Justine. Si j'avais le pouvoir de lire le passé d'un objet, je pense que ça m'aurait été très utile pendant mes études d'histoire. J'aurais touché un peu à tout et j'aurais révolutionné la théorie et le monde des historiens et du Moyen-Âge. Et toi, si tu avais ce pouvoir, qu'est-ce que tu ferais, Johanna?
Moi, si je pouvais lire le passé d'un objet, je pense que j'irais toucher la dalle en béton chez Xavier Dupont de Ligonnès pour enfin savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vraiment, moi,
Bien
j'aimerais bien
joué.
savoir ce qui s'est passé.
Bien joué, bien joué. Big up au Xav. Mais bienvenue dans le podcast Lectus, le podcast où on parle de nos dernières lectures. Aujourd'hui, on s'engage dans une grande tétralogie, celle de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc on s'attaque au premier tome qui s'intitule Les fiancés de l'hiver. Johanna, est-ce que tu peux nous faire un résumé de ce premier livre ?
Oui, alors dans ce premier livre, on découvre Ophélie, qui est décrite comme étant myope et plutôt réservée. Elle travaille au musée d'Anima, qui est l'arche sur laquelle elle vit avec sa famille. Et Ophélie, elle possède un don singulier puisqu'elle peut lire dans le passé des objets et elle peut aussi traverser les miroirs. Donc la vie s'écoule plutôt paisiblement jusqu'à ce que les doyennes de son arche décident de la fiancer à Thorn, qui est un héritier du puissant clan des dragons. Elle doit donc quitter son arche et sa famille pour le suivre jusqu'à la Citadelle, qui est en fait la capitale flottante du pôle. Donc elle ne sait pas pourquoi elle a été choisie, ni quel va être son rôle auprès de son futur époux, mais Ophélie, elle va devoir s'habituer à sa nouvelle vie et à tous les complots qui en feront partie.
Oui, donc on va parler de ça en détail dans la suite de l'épisode, en spoilant, désolée.
Oui, on prévient maintenant.
On prévient, parce qu'on s'était dit quand on a voulu faire ce podcast qu'on voulait débattre des bouquins. Et donc c'est un parti pris. Des fois on le fait, des fois on le fera pas, on verra.
Majoritairement, il y aura du spoil à chaque fois, hein. Préparez-vous.
Allez, à tout de suite. Alors, les quatre tomes de La Passe Miroir, c'était vraiment, je crois, l'une des meilleures découvertes. Moi, j'ai découvert ça l'année dernière, alors que le bouquin, il a 10 ans.
Ouais.
Il est sorti 2013 ou 2014,
ouais
c'est ça. Et moi, je l'ai découvert que assez récemment. Je sais pas pourquoi je suis passée à côté de ce bouquin.
La vie, je pense.
Sûrement.
Trop d'occupations.
Sûrement.
Trop de choses à faire.
Et en recommandation, tu sais comment on te l'a recommandé, toi, le livre ?
Ouais, bah c'est quelqu'un au travail qui me l'a recommandé.
Okay.
Et après, j'avais aussi vu pas mal de com à Cultura sur la trilogie à la période de Noël, je crois. Et ça avait l'air intéressant et bah, j'avais pas trop pris le temps. Et puis un jour, je me suis lancée et j'ai trouvé ça trop bien.
Mais ouais. Non, franchement, meilleure découverte. Bah, pareil, c'était une collègue au travail. Isaline, qui tient un bookstab d'ailleurs, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un de ces jours. Et elle m'avait dit que c'était vraiment très bien et que du coup j'ai suivi. En général, je suis plutôt liseuse aussi comme toi, mais l'été j'aime bien m'acheter un bouquin pour le traîner un peu partout à la plage. Et c'était le bouquin de l'année dernière.
Et quel bon bouquin!
Quel bon bouquin! Alors par où commencer? On va par le tome 1. Et le début du livre. Donc il y a toute une partie, on découvre, on ouvre le bouquin, souffre sur la traversée d'un miroir. Donc on découvre Ophélie, aussi bien une découverte, du personnage, de son caractère, mais c'est surtout physique. La découverte, elle se fait, il y a d'abord, on nous dit qu'il y a un nez qui émerge, après une bouche, après des lunettes, après une tête. Donc c'est assez marrant pour introduire,
je trouve,
un livre. C'est très, très parlant de tout de suite avoir une description physique du personnage principal. Donc on découvre Ophélie qui rentre à l'intérieur de son musée, là où elle travaille, sur l'arche d'Anima. Donc c'est vrai que l'univers La Passe Miroir, je trouve qu'il est ultra original, très riche. Et on sait que c'est un monde un peu flottant, où il y a différentes îles.
Bah, c'est que des arches, en fait,
ouais.
Flottantes. Et on sent, on dit dès le début du livre, qu'en fait, les arches ne sont pas reliées entre elles. Elles sont vraiment... C'est un monde qui a éclaté suite à ce qu'ils appellent la rupture. On n'a pas vraiment d'informations dessus,
oui.
Mais on comprend que du coup, le monde a été morcelé et que maintenant, il y a des arches sur lesquelles vivent.
Oui, c'est ça. Voilà. La déchirure. ou la rupture, oui, c'était un truc comme ça.
Je m'en souviens plus.
Ouais, je crois que c'est la déchirure. Mais c'est un peu comme Avatar avec l'histoire des rochers flottants.
Voilà. Oui,
même, c'est... même combat.
Ouais, même délire.
Mais sauf que c'est des morceaux de continents entiers.
Oui, et du coup, est-ce que tu te souviens de la particularité? Est-ce que chaque arche a un peu sa petite particularité? Et du coup, l'arche d'Anima, ils sont réputés pour... Tu te souviens?
Alors, c'est pour l'observation du ciel, je crois, c'est ça?
Bah ça, c'est l'esprit de famille.
Oui.
Mais Anima, c'est parce qu'en fait, ils sont animistes, du coup, ils peuvent donner leurs sentiments et en fait, ressentir les émotions des objets et en fait, de n'importe quoi.
C'est vrai.
Globalement, puisque du coup, quand elle entre, c'est ce que tu me disais, dans le musée n'est pas content. Qu'elle ne passe pas par la porte, mais qu'elle rentre par un miroir. Et elle sent, du coup, que la bâtisse n'est pas contente de son intrusion.
C'est vrai, bien joué, bien joué. Oui, ce sont des animistes, ils ont la capacité soit de sentir les émotions des objets, soit de les animer.
Oui, et parce qu'elle a une écharpe d'ailleurs qu'elle traîne tout le temps avec elle, et qui en fait, si vous avez eu l'occasion de voir les couvertures, ça dépeint assez bien l'univers, et du coup il y a toujours cette écharpe qui est autour de Lynn, je sais pas si t'avais remarqué.
Oui, qui enroule le titre.
C'est ça, ouais. Et en fait c'est l'écharpe du coup d'Ophélie qu'elle traîne absolument partout, ça fait un peu le vieux doudou dégueu qu'elle traîne, mais voilà, cette écharpe elle l'a depuis qu'elle est petite, et elle a une partie de son âme en fait, au final, de son amie quoi.
Ouais, c'est ça. Et alors c'est drôle, moi je trouve qu'on s'attache très vite à ce personnage, au personnage en général du bouquin, en particulier parce que c'est un peu des figures de anti-héros. Enfin, moi je trouvais, c'est, tu vois, on nous dit Ophélie, elle est toute petite, elle est mal sapée, elle voit rien, elle est ultra maladroite, elle n'arrête pas de se prendre les pieds dans tout et rien, elle ressemble à rien, elle est
clairement.
Un peu... Et avec plusieurs personnages, je trouve que t'as un attachement particulier parce que tu sens, mais qu'est-ce qui va arriver à cette fille ordinaire, ordinaire pour l'univers, pour son univers, on va dire. Elle est dotée de pouvoir, on le sait. Mais en tout cas, on arrive assez bien à s'approprier le personnage. C'est pas quelqu'un qui est très éloigné de nous. Voilà, c'est quelque chose... tout de suite, on s'attache très fort à cette Ophélie-là.
Oui, bah, effectivement, elle n'a pas d'aura particulière, c'est vraiment, c'est toute simple, quoi, elle n'a pas de, comme tu dis, à part ses dons, vraiment, elle n'a rien d'attirant, entre guillemets, parce que, bah, voilà, elle a beaucoup de défauts, quand même, de ce qu'on nous dit dans le livre, pas mal de défauts, quoi.
Oui. Et donc, dans cette première partie, donc, on sait où elle travaille, on sait ses pouvoirs, on découvre sa famille. Et pour un peu le plot twist du départ, c'est que, en gros, les anciennes de l'Arche, qu'on appelle les doyennes, elles ont organisé un mariage avec Ophélie et un représentant d'une autre Arche qui s'appelle Thorne. Et donc, on se trouve dans les jours ou les semaines avant la rencontre
entre les deux
du fiancé.
Du fiancé, d'où le nom, les fiancés de l'hiver, en partie. L'arche avec laquelle l'alliance en fait va être faite, c'est l'arche du pôle, et du coup c'est un monde qui est glacial. Donc d'où le nom du livre, si vous posez la question, ça ne vient pas de nulle part. Et effectivement, il y a cette partie du coup sur le mariage organisé par les doyennes, donc forcément Ophélie, elle qui est assez réservée, ça lui plaît pas trop d'être mariée, enfin... Voilà, c'est vraiment la nana, elle a ses habitudes, elle est dans son musée, elle lit ses trucs, elle fait la lecture des objets, elle fait ses visites, voilà, elle a vraiment une vie très bien rangée. Et d'ailleurs, dans le musée, elle travaille avec son oncle, enfin son grand-oncle, qui, lui, il désapprouve complètement le mariage, notamment parce que c'est un étranger, c'est pas quelqu'un qui vient de l'Arche d'Anima. Et je sais plus comment il s'appelle, Auguste, le grand-oncle.
Mais c'est vrai que c'est un peu particulier cette histoire de mariage, on sent bien que c'est un contrat entre deux, un contrat diplomatique.
Ouais, c'est plus
ça revient après, effectivement, le mot est posé. Mais on sait pas pourquoi lui a été choisi, pourquoi Ophélie non plus.
Oui, voilà. En fait, on sait pas les raisons qui ont fait qu'ils ont choisi Ophélie, qui, voilà... n'a pas beaucoup d'intérêt aux yeux des gens pour être mariée avec un inconnu d'une autre âge.
Mais il y a ce truc-là aussi, les doyennes, elles leur disent que c'est un peu la dernière chance, parce qu'elle a déjà refusé deux ou trois mariages avec des cousins éloignés, et qu'en gros,
c'est
bon, écoute, c'est maintenant ou jamais.
Oui, parce que c'est un peu la vieille fille qui a beaucoup de petits frères et sœurs, et elle, en fait, elle devrait déjà être mariée. Bah, d'ailleurs, c'est le cas de sa grande sœur, là, Agathe, qui est vraiment l'antithèse d'Ophélie, puisqu'elle, elle est très chiffon pompon, voilà. Elle est
extravertie, optimiste.
C'est ça, mais jolie en plus.
Oui.
Enfin, on la décrit comme plutôt jolie. Donc, bon, voilà, les gens comprennent pas trop pourquoi elle doit se marier, et surtout pas elle. Elle, elle sait vraiment pas ce qu'elle... Enfin, pourquoi elle doit se marier avec Thorn. Elle en a pas envie, mais en même temps, elle comprend que bah, les doyennes, elles ont choisi pour elle, et qu'elle peut pas vraiment dire non, quoi. Donc, on arrive un peu dans cette période où, voilà, Ophélie, elle se prépare à la venue, en fait, de Thorn. Donc il y a une... Là, je trouve que c'est bien décrit, en fait, il y a la grosse phase d'anxiété où voilà, tu sais pas en fait qu'est-ce qui t'attend, tu sais pas à quoi il ressemble, comment ça va être, etc. Elle a déjà un peu la nostalgie de sa famille, où en fait elle a une famille qui est très unie, qui vit tous ensemble, elle s'entend très bien avec ses petits frères parce qu'elle partage leur chambre, je crois.
Oui, ouais, petits frères et sœurs, oui, avec celui qui dit pourquoi, pourquoi, pourquoi.
Oui, voilà, la phase du pourquoi, qui pose plein de questions. Et donc voilà, il y a Ophélie, elle est au milieu un peu de tout ça, et elle essaie un peu de s'échapper, donc elle passe pas mal de temps dans son musée, et notamment elle a vu qu'elle va se marier et donc partir de l'île. Je sais pas si tu te souviens, mais elle demande au grand-oncle si elle peut aller lire un objet un peu spécial qui est en bas.
Oui, tout à fait, le livre de l'esprit de famille de leur arche.
Voilà, parce que alors ça c'est pareil, est-ce qu'on l'a dit,
l'esprit de famille.
Qu'est-ce donc les esprits de famille ?
Les esprits de famille, alors il y en a un par arche, d'après ce qu'on comprend, et c'est l'ancêtre de toutes les personnes qui vivent sur cette arche, et ils ont, c'est un peu, alors je dirais pas Dieu, parce que il y a des croyances autres, mais c'est vraiment une figure d'autorité, aussi bien, enfin surtout morale, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un d'immortel.
Ouais.
Quelqu'un qui veille sur l'arche, qui la protège, qui promulgue des lois, qui
applique des préceptes. Pour moi, c'est un peu les divinités, en fait.
Ouais.
Dans ce sens-là.
Ok, ouais.
Et donc, dans le sous-sol, elle trouve donc le livre d'Artémis, qui est voilà, l'esprit de famille de l'arche d'Anima.
Oui.
Et mais du coup, elle...
Oui, il y a un objet ultra particulier, parce qu'on nous dit que c'est un livre de pierre. C'est même pas un livre de papier, on nous dit que
oui, c'est
décrit quelque chose d'assez spécial.
C'est
avec
des peaux.
Oui, un livre de chair avec une écriture complètement illisible, que personne ne comprend. Et quand Ophélie le tient dans ses mains, a priori, elle a déjà eu l'occasion de le manipuler. Et quand elle enlève ses gants de liseuse...
Oui, c'est vrai qu'elle a des gants de liseuse parce que, bon, évidemment, vous doutez que si vous aviez la faculté de lire absolument la moindre chose que vous touchez, bah, vous seriez comme elle, en fait, vous mettrez des gants parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas toujours envie de lire ou de savoir l'histoire. Donc, effectivement, elle doit retirer ses gants pour effectuer une lecture.
Et quand elle retire ses gants et qu'elle manipule l'objet, il ne se passe absolument rien. Le truc est complètement vide de sentiments, de souvenirs, de passé. C'est un objet qui a toujours éveillé sa curiosité et sur lequel elle bloque.
Mais parce qu'elle ne peut pas lire.
Elle ne peut pas lire, forcément.
Donc voilà, elle essaie un peu de s'échapper à travers la lecture. Elle est un peu loin de l'organisation de son mariage, ce qui n'est pas trop le cas pour le coup de la mère d'Ophélie et de sa sœur qui sont à fond dans les préparatifs. Vraiment, elles sont plutôt superficielle de ce côté-là.
Oui.
Parce que pour elle, elle voit vraiment le mariage, même s'il est arrangé et forcé, comme quelque chose de sympa.
Alors oui, quelque chose qui va apporter à leur fille, à la famille.
Voilà. Donc, bon, c'est pas... Elle n'est pas, pas vraiment investie là-dedans. Donc voilà, là, le décor est bien planté. Ils sont vraiment dans l'attente.
Nous aussi.
Nous aussi, de savoir... qui va débarquer, en fait.
C'est ça.
Et donc, quelques temps après, je sais pas si c'est en jour ou en semaine, je crois que c'est en semaine.
Ouais, quelques semaines, ouais. Je dirais.
Eh bien, il y a un aéronef en provenance du nord qui finit par arriver.
Avec à son bord le fameux Thorn, Et donc tout de suite, tout le monde est pomponné, prêt à l'accueillir. Je me souviens, il pleut beaucoup, je crois.
Il fait dégueulasse.
Ouais,
il fait un temps de merde.
C'est vrai, quand il arrive, pas ouf l'accueil. Mm. Et lui, il calcule personne. On nous le décrit comme quelqu'un de très grand, très filiforme, ultra austère, voire un peu sévère. Mm. Et donc, il se dirige vers le petit groupe. Et il va donner tout de suite un ordre. Je crois que c'est en gros, tout le monde direction la calèche. J'ai un colis à livrer à votre esprit de famille. Bon, pas un mot pour le mariage, la famille ou Ophélie, rien du tout.
Non, il n'est pas du tout à cheval sur les convenances sociales. Mm. Lui, on comprend qu'il a des choses à faire et qu'il les fait et que peu importe en fait. Il n'est pas du tout sur les conventions, quoi. Mm. Donc ça choque pas mal la mère d'Ophélie, qui, elle, au contraire, elle est très à cheval sur ça. Mm. Donc c'est vrai que l'entrée en matière entre sa famille et Thorn, se passe pas très bien. Et même pour elle, elle se dit, ok, donc ça va être lui, en fait, la personne avec qui je vais devoir vivre.
Un petit espoir quand même, elle se dit, si vraiment on s'entend pas, ça se trouve, j'y échappe.
Ouais.
Mais bon. On verra la suite.
Et donc, ils partent direction l'observatoire d'Artémis, puisque, effectivement, l'esprit de famille habite en haut d'une grande colline.
Oui.
Parce qu'en fait, Artémis, on nous le dit, elle passe son temps à observer les étoiles.
Et oui, c'est pour ça que je pensais que c'était ça que tu voulais dire par rapport à l'arche et la spécificité.
Oui, ça, du coup, c'est un peu... c'est son truc à elle, mais en fait, le... Thorn doit aller déposer... est-ce qu'on sait ce que c'est? Je ne me souviens même plus. C'est un présent de la part, du coup, de l'esprit de famille de la Citatielle.
Oui. Mmh.
Donc, qui est, en fait, on l'apprend, le frère d'Artémis, mmh. et qui s'appelle Farouk.
Oui. Je crois que c'est une boîte.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça ne doit pas être un truc hyper important. Mmh. Mais du coup, la première rencontre, la soirée se passe pas du tout comme c'était prévu, parce que je crois qu'il y avait un banquet ou un truc comme ça, donc au final, lui, il en a rien à secouer, il veut juste aller donner son truc. On comprend aussi tout de suite que lui non plus, il a pas du tout envie d'être là.
Non.
Il veut pas se marier avec elle non plus, ça, voilà. On comprend qu'il y a vraiment une obligation, qu'ils sont... Au final, ils sont dépossédés de leur choix l'un et l'autre. Donc, ils se retrouvent obligés, en fait, par loyauté envers leur clan, à accepter cet échange qui se manifeste par un mariage. Mais en tout cas, on comprend très vite que ni l'un ni l'autre, ils ont envie de faire ce mariage, quoi. Et d'ailleurs,
il devait rester... je crois qu'il devait rester jusqu'à son mariage.
Oui.
Mais bon, il coupe court, il dit non, mais demain je suis partie, les gars.
Oui, voilà, il veut même pas rester. Mmh. Donc, je crois que le programme, c'est vraiment d'emmener Ophélie directement au pôle et d'y passer l'hiver et se marier au printemps. Mmh. Je crois que c'est ça.
Ouais.
Et d'ailleurs, il y a un moment où la grand-mère d'Ophélie, qui est, je crois, de mémoire, une des doyennes, elle lui dit que de toute façon, elle peut pas se soustraire au mariage ou alors il y aura vraiment des conséquences terribles, comme, entre autres, son bannissement.
C'est vrai.
Voilà. Donc, Ophélie est là. Bon, ok, mais d'accord, j'ai pas le choix, quoi.
Sautons-le pas.
C'est ça. Donc, effectivement, comme tu as dit, Thorn, il avance le voyage du retour. Hein. La fête, elle est écourtée. Et ils vont repartir dans le nord. Comment ça se passe, du coup, le départ?
Ils sont dans l'aéro... Alors, d'abord en aéronef. Il y a tout un voyage, un cheminement jusqu'à la Citatielle. Avec Ophélie et Thorn. Ophélie qui va être accompagnée quand même d'un membre de sa famille, Roselyne, qui est une de ses grandes tantes.
Oui,
une vieille fille, pareil.
Et qui sert de chaperonne.
C'est ça. Mm-hmm. Donc il va devoir les surveiller. Et donc ils sont dans un dirigeable. Après, ils arrivent jusqu'au pôle. Ils font le voyage en traîneau.
Ouais. En traîneau, ils vont jusqu'à... comment ça s'appelle? La cabane du garde-chef,
oui.
Non, c'est un truc comme ça.
C'est ça, où ils passent même pas quelques heures, histoire de se réchauffer.
Ouais.
Et après, ils repartent. Et un instant assez magique avec le traîneau, comme ça, donc qui se dirige vers la Citatielle. D'ailleurs, trop bien trouvé. J'ai kiffé quand Enfin, l'auteur a marqué Citaciel pour citadelle, c'est une citadelle flottante. Du
Mais
coup.
oui, il a
Et donc, on a un passage où on a un traîneau comme ça, un peu en mode Père Noël,
Mais c'est
ouais.
très fin, hein.
Il va donc comme ça, qui va se dresser à la verticale pour rejoindre la Citaciel. Et donc, ils finissent par arriver dans la maison de Thorne. On sait qu'il la partage avec sa tante, Bérénilde. Et donc ils arrivent sous le couvert un peu du secret, parce qu'en fait ça s'est passé très vite, dans la nuit, pas du tout d'arriver en grande pompe. Voilà, leur entrée se fait vraiment...
En catimini.
Ouais.
Et on sait pas trop pourquoi du
Non
coup.
plus.
Parce que c'est pareil, c'est censé être quand même un événement d'importance parce que, bon, ça on a compris qu'il y avait un intérêt diplomatique à ce que les deux se marient, mais en fait on sait jamais vraiment pourquoi. Et il y a un moment d'ailleurs dans le livre, je crois que c'est un. Je sais pas si c'est là ou un petit peu avant, mais Ophélie elle rencontre la grand-mère de Thorne.
Oui,
Et
ah oui,
en.
c'est vrai qu'ils vivent avec la tante et la grand-mère au départ, c'est
Bah, au
vrai.
départ, il y avait la. Enfin, où il la croise, je sais plus où, peut-être dans le chalet. Et en fait, elle dit que Ophélie, c'est le nouveau sang venu sauver les dragons, le clan des dragons. Et bah là, on sait pas trop, en fait. On se dit, bah, peut-être qu'il y a une histoire de faire un héritier, ou voilà. On sait pas trop. On est vraiment laissé dans le flou. Donc voilà. Ça, c'est un élément qui est de côté. Et effectivement, comme tu l'as dit, on rencontre la tante de Thorne qui s'appelle Bérénilde. Et Bérénilde, du coup, comment elle est?
Alors, c'est une des courtisanes favorites de l'esprit de famille du pôle. Elle s'appelle Farouk. Elle est, c'est une bimbo.
Ouais,
Pas une
ça.
bimbo, mais voilà, très belle, très gracieuse, très élancée. Ils sont tous à peu près blonds ou avec les cheveux argentés et les yeux bleus, je crois, dans le pôle. Enfin, vraiment type scandinave, quoi.
Ah ouais, ça m'avait pas marqué. Ok.
Et donc, voilà, vraiment l'archétype, la belle femme.
Mais après, on comprend quand même que malgré la beauté de Bérénilde, en fait, elle explique très vite, parce que voilà, Ophélie et tante Roselyne vont devoir vivre sous son toit. Et Bérénilde, elle va rapidement leur expliquer quand même les dynamiques un petit peu dangereuses qu'il peut y avoir au fait de vivre au pôle, que c'est pas du tout comme Anima, que voilà, les gens sont pas aussi, comment dire, amicaux.
Ouais,
C'est le
ça
moins
oui.
qu'on puisse dire. Et bah, effectivement, en fait, elles vont très vite comprendre qu'il y a des intrigues politiques qui se jouent en fait au pôle. Bon, c'est normal, après, c'est la capitale. Et il y a pas mal de luttes de pouvoir. Donc, tante Roselyne, qui est quand même quelqu'un d'assez sec, elle exprime quand même son inquiétude par rapport à Ophélie et au fait de bah, cette nouvelle situation où elles se retrouvent toutes les deux. Elles ont pas de... enfin, elles ont aucune personne de confiance pour l'instant, elles sont que toutes les deux. Catapultées dans un univers qu'elles connaissent pas du tout, avec des gens qu'elles apprécient pas forcément et qui sont pas forcément accueillants avec elles. Donc,
Et ça se ressent beaucoup,
ouais.
enfin, ces passages-là où du coup on les tient dans le secret, tu sens l'ennui, enfin, qui transparaît vraiment, que dès qu'il y a des invités, on les cache, elles n'ont pas le droit de sortir,
Ouais,
même si
confiné.
Ophélie va essayer de tenter.
Oui, petite
Mais
sortie.
non, vraiment, ça se ressent à la fois chez les persos et chez le lecteur, parce qu'au final, tu vois, tu as des pages comme ça qui servent à rien, quoi. C'est juste de l'attente, et ça te met bien dans l'ambiance. Bon, après, tu sens quand même poindre aussi, parce que pour l'instant, on parlait d'un univers très rose, où voilà, sur Anima, ils vivaient en harmonie avec leur famille, même si c'était un peu relou, c'était quand même des mignons. Et là, clairement, voilà, on sait
C'est
bien que voilà, il y a des petites pointes comme ça là de cruauté, de méchanceté qui commencent à faire surface aussi bien chez leur hôte que chez les gens autour, quoi.
Oui, et d'ailleurs, Bérénilde, elle le dit aussi, elle essaie de les rassurer un peu en disant que le mariage, c'est vraiment un accord qui a été fait entre les doyennes et le pôle dans, enfin, pour un bénéfice mutuel. Donc là, vraiment, c'est dit qu'il y a un intérêt pour les deux familles. Et elle laisse entendre qu'il y a des motivations un peu plus profondes qui seraient liées en fait à l'héritage familial et au pouvoir. Là, c'est pareil, on se dit, bah ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, on est vraiment toujours laissé dans le flou. Donc, on est comme Ophélie, en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait là. On est juste là à glander dans une super maison. Mais on fait rien, quoi. Donc, l'ennui, il apprend assez vite, quand même. Et même tante Roselyne, elle trouve le temps long, quoi.
parce que Thorne n'est jamais là.
Ah non.
Il est, on apprend qu'il est intendant de la Citatielle, donc voilà, il a d'autres choses, d'autres chats à fouetter, donc oui. On ne le voit jamais. Et d'ailleurs, dans ce premier tome, on le voit très rarement. Enfin, ah. Il parle rarement. Je crois que je ne sais même pas si toutes ces phrases, elles tiennent sur deux pages, quoi. Vraiment, ouais. Il brille par son absence. Pour le coup, ça en dit long. Mais donc, par rapport, oui, on avait parlé par rapport à Nima, c'était quoi leur spécificité.
Oui.
Donc, sur le pôle, on comprend qu'il y a des clans, que Thorne et sa famille sont les représentants des dragons. Donc, quel est leur pouvoir à eux, alors?
Eh bien, ils ont un pouvoir qui est, on va dire, un peu, j'allais dire sanglant, mais c'est pas trop ça. En fait, ils possèdent des griffes, mais c'est des griffes mentales, qui leur donnent, en fait, l'ascendant sur les personnes avec qui ils pourraient, par exemple, se fâcher. Donc, ça en fait un clan qui est vraiment redoutable, parce que personne n'a envie de se faire agresser par le clan des dragons. Mais il y a aussi d'autres clans sur le pôle, en fait. Bon, c'est normal, vu que c'est la capitale, voilà, il y a plusieurs clans. Est-ce que tu te souviens des autres, un petit peu? Il y en a un dont on parle pas mal.
Ah, il y a les mirages et la toile. Enfin, en tout cas, dans les principaux, ouais. À la cour, ouais. À la cour de Farouk. Mmh. Et on va dire, il y a des clans qui sont officialisés, enfin, qui ont les bonnes entrées. Et donc, je crois que c'est les trois principaux.
Ouais. Et du coup, c'est les spécificités de la toile. Tout viens-tu?
Alors, la toile, ils sont connectés, je crois, entre eux.
Ouais.
Bah, au niveau de... Tout se passe un peu au niveau mental,
oui.
Autour, au pôle. Enfin, on sent que c'est des pouvoirs un peu psychiques.
Mm.
Donc, la toile, c'est finalement un réseau, une famille réseau. Tout le monde peut, à tout moment, voir, entendre à travers toi. Et les mirages, du coup?
Eh bien, les mirages, si je dis pas de bêtises, eux, ils peuvent vraiment faire des mirages, en fait.
Oui, c'est les maîtres des illusions, je crois.
Oui, voilà, les illusions. Donc, c'est-à-dire que... Bah, d'ailleurs, l'architecture de la citadelle, elle est assez particulière parce que, justement, il y a beaucoup de... Ça, on le voit dans le livre aussi. En fait, on arrive dans un univers où ça fait un peu la cour très pimpante. Il y a des rideaux de velours. Enfin, tu sens que c'est un peu cocooning et tout. Et en fait, Ophélie, au fil des pages dans le livre, elle va découvrir que c'est la plupart des illusions.
Mm.
En fait, c'est vraiment des choses qui sont délabrées, mais qui sont cachées, en fait, derrière des illusions de « tout va bien ».
Oui,
en fait.
Oui. Mm. Il y a beaucoup de trompe-l'œil. Voilà. Oui, c'est vrai.
Il y a pas mal de choses. Est-ce que tu te souviens ce qui se passe après?
Après leur arrivée sur la citadelle.
Ouais.
Donc oui, elles sont cachées et tout ça. Et il y a un moment donné où les dragons sont appelés à la cour. Mais est-ce que je sais pourquoi? Est-ce que je me souviens? On apprend que Bérénilde est enceinte de l'esprit de famille de Farouk.
Oui.
Mais je sais plus ce qui déclenche l'événement qui déclenche leur arrivée à la cour.
Alors, moi, dans mon souvenir et de ce que j'ai renoté rapidement, en fait, on découvre que Thorne, c'est le fils illégitime d'une femme qui a été discréditée dans un autre clan. Ça, je ne sais pas si tu te souviens.
Ouais.
Donc, pendant la période un peu creuse, Ophélie, elle écrit à ses parents. Elle ne mentionne pas, du coup, tout ce qui se passe parce que, voilà, elle ne veut pas les effrayer et elle ne veut pas qu'ils se pointent non plus. Et effectivement, il y a le côté où Thorne interdit à Ophélie de sortir pour la protéger. Donc voilà, on comprendra un petit peu plus tard pourquoi il veut pas qu'elle sorte. Et c'est vrai qu'elle finit quand même par réussir à faire une petite sortie. Elle va rencontrer un personnage qui deviendra important dans plutôt les autres livres, qui est Archibald, qui fait partie...
C'est l'ambassadeur de Farouk.
Ouais, je sais plus. Et lui,
spécial. Ouais,
il fait partie de la toile.
Oui. Tout à fait.
Voilà, et en fait, il va retrouver Ophélie qui erre sur le territoire des Mirages, qui est en fait un clan opposé à celui des dragons. Donc, il va essayer un peu de la protéger, mais il dit aussi « Oui, moi j'ai envie de voir qui est la fiancée de Thorne parce que j'ai envie de la draguer. » Donc, c'est un peu drôle parce qu'en fait, c'est elle. Donc, elle essaie un peu de se dépatouiller.
Non, c'est pas moi.
Voilà, je vois pas de qui vous parlez. Donc, elle dit qu'en fait, elle est une cousine ou je sais pas quoi. Parce qu'effectivement, comme il fait partie de la toile, tout ce qu'il sait, les autres le savent. Mm. Donc, il faudrait pas que la rumeur se répande et que les gens finissent par savoir qui elle est. Donc, il y a aussi, un gros secret sur qui est la fiancée de Thorne. Vraiment, il la cache. Et moi, au début, je comprenais pas pourquoi.
Bah ouais, j'avoue. Enfin,
en fait, ça sert à rien.
Non.
Enfin, dans le livre, je trouve ça a pas de...
Ils disent c'est pour la protéger, parce que ils veulent pas que du coup, Thorn ait une descendance. Et du coup, ils seraient prêts à tout pour l'éliminer. Enfin, ah. C'est ça qu'on...
Ah, pour pas bafouer oui. Le sang des dragons
ouais.
Ah, c'est pour ça.
Ouais, ou pas juste... parce que les dragons sont a priori, et ce qu'on sait, sont pas très bien vus.
Oui, bon, en même temps...
Un clan de chasseurs, voilà, ultra armé. Jusqu'aux dents. Mais du coup, oui, on comprend que c'est avant tout pour la protéger, et d'ailleurs, ça continue, en fait, ce truc-là. C'est... Alors, au début, ils sont arrivés en cachette, ils sont cachés au sein donc de... enfin, du pôle chez Berenild, et une fois qu'ils arrivent à la cour, pour encore continuer dans ce délire-là, Ophélie va prendre un rôle un peu spécial. Je ne sais pas si tu te souviens.
Oui, elle va devenir Mime.
Oui.
Enfin, Mime, c'est le prénom, et du coup, elle devient Valet, en fait. Ouais. C'est ça, hein ?
Ouais.
Mais je sais plus pourquoi il la grime en Mime. C'est juste pour qu'elle passe inaperçue.
Oui, c'est ça.
C'était juste pour ça. Hein. Ouais. Oui, parce que... Attends, peut-être que je me trompe, mais est-ce que c'est parce que Berenild, étant enceinte, a des faveurs et du coup doit déménager dans la cour ?
Mm-hmm.
C'est ça, hein ?
Oui. Oui, bah, je crois que c'était ça, effectivement, le,
et
l'événement.
Et du coup, elle prend... Elle déguise, en fait, Ophélie pour la faire passer pour son
valet. Parce qu'elle n'a pas le choix que d'y aller.
Oui, elle n'a pas le choix. Mm. Donc, elle va au domaine Clair de Lune.
Oui, c'est ça, oui.
Qui est le domaine d'Archibald.
Ah, ok.
Voilà, il y a une petite différence.
Mm-hmm.
Mais oui.
Elle va pas tout de suite auprès de Farouk. Ok.
Oui, il y aura peut-être des petites incohérences dans ce qu'on vous raconte, parce que le livre est extrêmement riche en détails. C'est un univers qui est très foisonnant. Donc, voilà, même, enfin, une heure, ça sera probablement, on va survoler beaucoup de choses. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de détails, il y a beaucoup de personnages. Et comme tu l'as dit, il y a beaucoup de pages juste pour passer le temps, entre guillemets.
Oui, en tout cas, d'écrire, je crois que quand même, c'est, il faut le dire, c'est très accessible hein, comme lecture. Moi, je ne me suis pas sentie tout de suite perdue.
Oui,
ça a amené quand même de manière intelligente et avec parcimonie. Enfin, non, il y a vraiment c'est très accessible comme lecture. Mais c'est vrai qu'on passe un cap une fois qu'ils arrivent à la cour. Et donc, Ophélie prend le rôle d'un valet. Et donc de Mime, on sait qu'elle ressemble à un garçon, qu'elle n'a pas le droit de parler.
Non.
En dehors, on a des gens forcément qu'elle connaît déjà. Elle est reléguée au quartier des servants.
Oui, dans une vallée.
Vraiment. Et là, c'est le début. La pauvre, peu chère, quoi.
Ah ben oui, là ça commence à dire. Surtout que alors, elle se récupère une chambre qui est absolument pourrie. Et dans chaque chambre, qui est associée à chaque servant, en fait, des riches qui sont au-dessus, il y a une clochette. Et Berenild, qui est quand même, bon, on ne l'a pas trop dit, mais ça reste quand même une personne du clan des dragons, et elle n'est pas super sympa, elle verse pas trop dans les sentiments, donc elle ne va pas du tout l'épargner. Hein. Vraiment, moi, dans mes notes, j'avais noté Bérénice dans sa chambre, la clochette sonne tout le temps.
Oui.
Elle est tout le temps en train de l'appeler pour n'importe quoi, voilà.
Mm. Et par contre, du jour et de la nuit.
Oui, voilà. En plus, c'est ça. Mm. C'est que c'est n'importe quand, parce qu'on comprend que la cour, en fait, le domaine de Clair de Lune où elle réside, il y a beaucoup d'aristocrates, en fait, qui sont dedans, et c'est vraiment une fête perpétuelle.
Continue.
Il y a toujours des fêtes. Et je sais pas, je pense que tu vas t'en souvenir, mais ils ont des petites récompenses quand ils effectuent bien leur travail, tout ce qui est valet, en fait, le petit personnel. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est ?
Des petits sabliers.
Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, les petits sabliers ?
Les petits sabliers, bah, c'est les récompenses, en gros, des valets. Y en a de plusieurs couleurs qui sont associées, enfin, plus ou moins précieux. Il y a les sabliers verts. T'offre des petites vacances, je crois, enfin une heure de ton temps, genre ailleurs, ça te permet de t'envoyer ailleurs. Les sabliers bleus, ça, ils sont très convoités. Ça permet, c'est un peu spécial, il n'y a personne qui arrive à nous décrire vraiment ce qui se passe dans ces sabliers, mais a priori, tu prends du bon temps.
Apparemment, c'est très bien.
Et donc, il y a un trafic forcément entre les valets de sabliers. Et donc Mime, alias Ophélie, va se rapprocher d'un valet qui va lui apprendre les ficelles du métier. Qui s'appelle Renard pour les intimes, mais son nom c'est Reynold, je crois.
Audrey.
Et avec une autre aussi qui interviendra un peu plus tard, qui est Gaëlle. Et donc ça va être ses seuls amis, vraiment au au sein de la cour. Parce que vraiment, le reste, elle enchaîne, parce qu'évidemment, ce sont des nobles, donc par rapport au traitement des valets, voilà, elle prend cher.
Elle est vraiment reléguée dans les fins fonds du domaine. Elle a que Gaëlle et Renard pour discuter un peu.
Même pas, je crois, elle doit et garder encore, son,
oui, elle
son
peut,
identité
mais
cachée.
Je crois qu'il y a Gaëlle qui découvre que c'est une fille très vite, et du coup, elle peut quand même se confier à elle, parce qu'elle vient, je crois, dans les premiers temps, lui apporter, comme c'est un nouveau, elle apporte un gramophone dans sa chambre, pour justement, parce que vraiment, au début, Ophélie, elle est au bout de sa vie, quoi. Enfin, elle n'a jamais subi ça, donc elle vient de l'aider un peu. Mais c'est vrai que tout le monde est très très occupé. Il y a, en fait, elle fait un job étudiant, quoi.
Ouais, c'est ça.
La pauvre.
Donc, on découvre ça, mais je trouvais que par rapport à l'avancement de l'intrigue, je ne sais pas comment tu l'as ressenti, mais ce premier tome, pour moi, il n'y avait pas... Enfin, on arrive à la fin de ce premier livre à une info essentielle pour la suite. Mais en gros, il n'y avait pas vraiment d'intrigue, c'était juste les jours se passent, les mauvais traitements se cumulent. Mais en termes de vraiment d'histoire et d'intrigue propre au personnage,
ça avance pas.
Non. Alors effectivement, on va peut-être pas déblatérer sur tous les crimes, complots et compagnie qui encourent Citaciel. Il y en a beaucoup, on va retrouver beaucoup de personnages. Il y a Archibald qui va revenir, il y a la mère Hildegarde, c'est l'architecte en chef de la Citaciel. Il y a le chevalier, un enfant, je crois qu'il a même entre 5 et 8 ans.
Ouais, qui a des pouvoirs d'illusionniste et qui vraiment fait flipper, t'as pas envie de le rencontrer.
Ah ouais, clairement. Psychopathe.
C'est clair, c'est un psychopathe le petit. Et du coup, comme t'as dit, la mère Hildegarde, architecte de l'Arche, elle manipule les réalités spatiales. Et d'ailleurs, on apprend un petit peu plus tard que c'est aussi elle qui fabrique certains des sabliers.
Oui.
Voilà. Mais ça, on y reviendra probablement...
Dans les autres tomes.
Tout à fait.
Donc oui, finalement, l'intrigue n'avance pas. Ce premier livre, pour moi, c'est vraiment juste une mise en situation, une exposition, en gros, du contexte général. Parce que même en termes de romance entre guillemets,
oui,
je veux dire juste ils ne se voient pas, on ne voit pas Thorn, et donc ils sont très très éloignés les uns des autres. Il y a juste
il y a un moment où ils vont pouvoir se parler, parce que donc comme l'a dit Justine, Thorn ne fait pas beaucoup d'apparitions auprès de Bérénice et Ophélie parce qu'il est totalement pris par son rôle de trésorier en fait de la ville, et d'ailleurs on comprend que c'est un mec qui est très à cheval sur les chiffres. C'est une grosse tête, en fait, qui est bourrée de tics, qui plus est, qui a beaucoup de tics et de tocs. Mais un jour, il vient quand même rendre visite à Bérénide, parce que, Bérénide est enceinte de Farouk, qui est quand même l'esprit de famille, donc un peu stylé. Et en fait, il fait exprès d'oublier son seau en argent pour que Ophélie lui rapporte. Et du coup, Ophélie, elle va servir des miroirs pour aller le voir, tu sais, dans son bureau. Dans son bureau. Où là, du coup, ils vont pouvoir échanger un petit peu. Les échanges sont toujours extrêmement froid. Il y a vraiment du ressentiment quasi des deux côtés. Ils n'arrivent pas à se parler, ils ne savent pas communiquer, hein, clairement. Et par contre, il lui dit que le courrier qu'elle envoie à sa famille est intercepté. Donc ça veut dire quand même que des gens surveillent la correspondance d'Ophélie. Donc là, c'est pareil, on ne sait pas qui, on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a aussi la mère Hildegarde après qui subit un attentat. Et d'ailleurs là on s'approche un petit peu de la fin de ce premier livre, et en fait c'est Ophélie qui va être accusée d'avoir fomenté l'attentat contre la mère Hildegarde, parce qu'en gros elle a touché des oranges empoisonnées, et au final elle va s'en sortir grâce à son don, puisqu'elle va toucher le panier et elle va voir que je sais plus qui c'est. C'était qui?
C'était la grand-mère.
Ah mais oui, la grand-mère de Thorn, Ah là là. Je me souvenais pas du tout. Et au final, la mère Hildegarde, elle va dire non, mais c'est bon, j'ai juste fait une allergie, il n'y a rien de grave. Donc au final, Ophélie, elle va être libérée.
Oui, libérée, et Hildegarde, on sent que parce qu'elle n'est pas originaire du pôle.
Non.
Elle est originaire d'une autre arche, cet architecte. Un peu sans âge aussi, hein. Elle est très très vieille, enfin, on comprend que c'est pas n'importe qui, et a priori ce serait plutôt, alors pas une amie mais une alliée, va oui, dire, dans le...
Oui, moi je trouve qu'elle ressemble vraiment à... Je sais pas si t'as regardé Le Château dans le Ciel, du coup.
Oui.
Elle ressemble à Yubaba.
Eh ben oui, moi je pensais au voyage de Chihiro, vraiment.
Pareil, ouais, vraiment, c'est vraiment le même genre de personnage. Clairement. C'est un peu la sorcière, tu sais pas trop si elle est sympa ou pas. Enfin bon, elle est mi-figue, mi-raisin, quoi, tu sais jamais trop à quoi t'attendre.
Mais il y a quand même parmi tous ces complots, et je crois que c'est l'un des derniers, il y a une grande chasse qui est organisée par les dragons chaque année, par toute la famille de Bérénild et Thorn. Et qu'est-ce qui se passe? Les nouvelles aux journaux le lendemain, c'est pas très bonne.
Non, pas vraiment. Bah alors, donc déjà, pourquoi ils organisent la chasse? C'est pour nourrir en fait toute la ville, parce qu'on comprend, ça c'est dit un petit peu aussi dans le livre, que justement, Thorn, comme il est intendant, il surveille tout ce qui est rentrée d'argent, sortie, mais aussi tous les biens en fait qui appartiennent à la citadelle. Et ils sont pas loin de la famine, visiblement, c'est un peu tendu. Donc les dragons vont chasser apparemment les énormes bestioles qui habitent sur la banquise en fait plus bas. Et le lendemain de cette chasse organisée par le clan des dragons, auquel Thorn n'a pas eu le droit de participer parce que voilà, il fait pas partie du clan vu que c'est un fils illégitime. Et en fait, le clan des dragons a été décimé.
Oui, oui, bye bye.
Ils se sont tous fait buter et on ne sait pas par qui, je crois.
Pas au début.
Pas au début. Mm. Donc du coup, il y a une enquête qui va se lancer. Et après, je sais plus.
Bah, c'est résolu sans être résolu parce qu'on va rejeter la faute sur les bêtes. En gros, on va dire
ce
accident.
Oui, oui, voilà, bien
accident de parcours. Mais en fait, il y a quelqu'un qui va avouer...
les crimes.
Oui, qui va avouer les crimes. Est-ce que tu te souviens qui c'est?
Je ne me souviens pas du tout qui c'est.
C'est le psychopathe.
Ah mais oui, c'est le chevalier.
C'est ça.
Mais oui, mais qu'est-ce qu'il foutait là, lui?
Eh ben, le chevalier, avec ses dons psychiques, il est capable de projeter dans l'esprit des gens des pensées et tout ça. Oui. Et donc, en gros, a priori, il aurait détourné la chasse, il serait rentré dans l'esprit des bêtes. Et donc les bêtes auraient attaqué les dragons. Enfin, il avoue ça à demi-mot, assez fier de lui, parce qu'il se fait appeler le chevalier pour une chose, c'est parce qu'il est très proche de Bérénild, et donc c'est son chevalier servant.
Oui, alors il est cringe, hein, cet enfant.
Il est très cringe. Et donc, comme les dragons n'ont pas été très gentils avec Bérénild à un moment donné, bah, du coup, il a décidé de faire place nette.
Super.
Allez.
Vraiment le gamin qu'on rêve d'avoir.
Bon, donc, ça clôt un peu ces aventures, toutes ces complots dans le premier tome.
Mais je me souviens plus si c'est dans ce livre ou dans le début du 2, où on sait en fait au final pourquoi ils doivent se marier tous les deux. Est-ce que c'est dit à la fin de ce premier livre?
Oui,
c'est dit. Hein,
c'est dit à la fin du premier livre et redit au début du livre.
Ouais. Mm. Et bien du coup, est-ce que tu veux dire pourquoi ils se marient?
Oui.
Pourquoi ils doivent se marier, Thorn et Ophélie?
Ils doivent se marier, alors pour une bonne raison, c'est que quand il y a deux personnes qui se marient au pôle, ou ailleurs je sais pas, mais en tout cas c'est spécifié au pôle, donc il y a un échange de pouvoir en même temps qu'un échange d'alliance. Donc comme ça Thorn pourrait hériter des dons d'animiste d'Ophélie, et avec sa mémoire de chroniqueur qu'il tient de sa mère, il pourrait être capable de déchiffrer le livre de son esprit de famille, le livre de Farouk, qui ressemble étrangement à celui d'Artémis,
voilà,
un livre de peau, de chair, illisible, que personne n'arrive à décrire, et qui est l'obsession
de Farouk.
De Farouk.
Ouais, parce qu'il va absolument savoir ce qu'il y a dans ce livre. Donc, voilà, on apprend à la toute fin que c'est là l'intérêt de ce mariage, en fait, c'est vraiment pour déchiffrer le livre de l'esprit de famille.
Eh oui. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le clap de fin de ce premier tome. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place.
Ouais.
Je me suis dit après, on a vraiment le temps de se familiariser avec tous les enjeux, tous les clans. C'était pas plus mal finalement d'avoir ce premier livre un peu exposition. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Quelles sont les thématiques que t'as retenues?
Il y a pas mal de thématiques qui sont abordées, comme la loyauté envers sa famille, les obligations que tu dois avoir aussi envers elle, une privation quand même des choix personnels, parce que voilà, les personnages, on comprend qu'en fait, c'est que des machinations tout le temps, ils sont toujours trompés, dirigés dans une mauvaise direction, Enfin, en fait, c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé que ce premier livre, c'est vraiment comme être dans un grand théâtre.
Oui.
Les gens, ils ont vraiment des rôles et ils ont des masques et tu sais jamais vraiment comment ils sont derrière. Moi, je me mets à la place d'Ophélie. Je me dirais, ouais, ok. Donc là, j'arrive. Je peux faire confiance littéralement à, honnêtement, quasi personne. Hein, parce qu'ils sont tous super fourbes. Donc c'est vrai que l'univers, il est très bien planté. Il y a quelques lenteurs en fait dans l'écriture, mais comme tu l'as dit, en fait, ça participe aussi au sentiment de bah voilà, Ophélie étant Rosine qui arrive, qui n'ont rien à faire, juste à part attendre et apprendre au fur et à mesure de trois infos. Mais sinon, globalement, l'univers, il change vraiment de moi ce que j'avais déjà lu auparavant dans tout ce qui est fantasy. Il y avait vraiment des choses plutôt nouvelles. Et surtout par rapport aux personnages qui sont pour le coup un peu antipathiques. C'est pas des héros auxquels ils sont pas beaux. Ils sont pas sympas. Enfin, je veux dire, Thorne, t'as clairement pas envie de lui faire la bise et de taper un thé avec lui, quoi.
Donc, avec ça, personne, j'ai... au final.
Ben, avec personne, ouais. Y a pas beaucoup... Non.
Non, non. Quand j'y pense.
Non, en fait, en y réfléchissant. Donc, voilà. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé?
Un peu pareil. Pour moi, c'est vraiment ce que je retiens de ce premier livre. C'est un théâtre d'illusions. C'est vraiment ça... Ce que tu as dit par rapport au théâtre, c'est totalement ça, le fait que y a l'apparence, ce que les gens sont devant les uns les autres, ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes, ce qui, enfin voilà, il y a plein de parts d'ombre qui cachent, enfin c'est un peu tout ça. Et au final, ce que le duo qui se dénote dans tout ça, c'est Ophélie et Thorne. Enfin, je sais pas comment tu l'as ressenti, mais alors effectivement, lui, il lui cache des choses, mais il va jamais lui mentir. Et c'est dans leur relation... Non, tu n'as pas ce truc-là.
Je ne sais pas, quand même. Hein,
ok.
Parce que ça reste... l'omission, ça reste une forme de mensonge.
Oui,
donc,
d'accord.
Il la pipote un peu quand même, mais en même temps, il lui a dit au tout début, quand il l'emmène, il y a une phrase dans le livre qui est dit, de toute façon, quand ils échangent, ils sont dans l'aéronef. C'est très tendu tout de suite, parce que ils peuvent pas se blairer, hein. Et Thorne, il lui dit, de toute façon, je doute que tu passes l'hiver au pôle. Donc là, déjà, il lui dit qu'en gros, il trouve qu'elle est faible et qu'elle a aucune qualité pour survivre au pôle et justement à toutes les intrigues dont on a parlé. Et c'est là qu'on voit aussi qu'elle est quand même, malgré son aspect un peu fragile, elle est quand même très déterminée. Et elle veut aller au bout des choses, même si elle voit pas forcément où elle va aller. Donc voilà.
Ouais, c'est la résilience. Enfin, c'est vraiment le truc. Voilà le topo. Effectivement, j'ai pas choisi, mais comment je peux essayer d'en tirer le meilleur parti
C'est ça.
Sans y perdre des plumes, quoi.
Ouais, c'est ça.
Mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait quand même cette. Il y a tout de suite une franchise entre eux deux, alors qu'il est soit ultra maladroite, soit effectivement, c'est une franchise qui peut faire mal.
Oui.
Mais je sais pas, je trouvais que parmi tous les personnages.
Ils sont honnêtes.
Voilà, ils sont honnêtes au moins l'un envers l'autre.
Oui, le peu de fois qu'ils se parlent.
Ouais.
Mais ils sont honnêtes.
Voilà.
Non, mais c'est vrai, ça change parce qu'il y a beaucoup d'histoires où on va dire le couple de personnages principaux. Où en fait tout de suite c'est un peu je t'aime, moi non plus, machin. Non, oui. Là en fait juste eux tu sens qu'ils s'aiment pas. Et
non.
Qu'ils sont obligés de se supporter et que ça ne va probablement pas changer. Donc ça, c'est bien. J'ai trouvé que la nature de leur relation était plus travaillée que ce qu'on peut voir dans les autres univers, que ce soit un univers fantastique ou d'ailleurs une romance classique.
Oui.
Ça change vraiment. C'était un peu moins « je viens avec mes gros sabots et on sait direct que ça va être le big love », alors que pas du tout.
Ouais, parce que souvent dans les romances comme ça, genre Enemy to Lovers, il y a toujours ce truc-là, alors ok, lui c'est un connard, elle c'est une connasse, mais souvent il y a du désir physique.
Oui, ouais, voilà, c'est ça. Être belle, être beau.
Alors que là,
que
pas de... du tout.
Ah non, ils peuvent pas se mener,
donc
vraiment.
Tu ne sais pas comment ça va évoluer.
Bah pas très bien.
Non,
mais bon, voilà. Et du coup, on voulait un petit peu terminer l'épisode sur quel... acteurs, on veut pas attendre, comme c'est une tétralogie, ce mot est moche, voilà, pour dire les quatre tomes d'une œuvre. On voulait pas attendre le dernier pour qui on verrait en fait pour faire les acteurs, donc on va le faire maintenant parce qu'on est trop impatients.
Ça nous avait bien plu.
Ouais, c'était marrant pour la faucheuse, du coup on s'est dit qu'on pourrait le refaire pour certains livres. Qui est-ce que tu verrais pour incarner le rôle de Thorne?
Thorne, moi j'ai eu tout de suite. Mais même quand on en avait parlé.
C'est vrai qu'on s'était un peu spoilé celui-là.
J'avoue. Et moi, en Thorne, je voyais direct Bill Skarsgård, pardon.
Ah mais oui, tu m'avais montré. Oui, c'est vrai que ça colle plutôt bien.
Ouais, il est ultra grand, blond, des yeux un peu creusés.
Un peu globuleux. Oui, enfin, oui. Pas globuleux, mais au fond. Enfin, voilà, un oui, regard oui,
vraiment, je le voyais direct.
Ouais.
Et toi?
Moi, j'avais mis direct Jacob Elordi. Ah. Mais tu m'as dit, il est un peu trop beau.
Oui, j'avoue.
Pour moi, mais quand même.
Trop beau gosse.
Mais ouais, mais je le vois bien parce qu'il est super grand.
Ouais.
Il est un peu...
Il est pas moche du tout.
Non, mais il n'est pas moche du tout. Mais bon, tu me mochifies un peu pour le
d'accord,
film.
D'accord,
parce que bon, voilà, Thorne a une balafre. D'où le nom, oui. Un peu aussi. Et sinon, j'aurais mis Austin Butler. Mais pareil.
Il a un physique atypique, ouais.
Ouais, donc un des deux.
Ouais, ok.
Voilà. Et qui tu aurais mis pour Ophélie?
Ophélie, j'ai eu trop de mal.
Ah, moi, j'en ai trop de mal. J'en ai mis beaucoup trop.
Mais bah, c'est bien, tu vas pouvoir me le dire. Parce que, ouais. Alors, c'est bizarrement... Et c'est un truc que j'ai senti dans le livre aussi, on n'indique pas l'âge des personnages.
Alors, moi, dans ma tête, ils ont genre, ils sont entre 25 et 30 ans.
Ouais, pour moi, je suis aussi fin de vingtaine, parce que je dis, bon, quand même, ils ont vécu, elle a refusé plusieurs mariages.
Ouais.
Bon, elle vit toujours chez ses parents, mais on comprend que c'est plutôt une vieille fille.
Oui.
Du coup, pour moi, en fait, je voyais pas quelqu'un de jeune.
Pas trop jeune, en
ouais,
tout cas.
En tout cas, en actrice. Et il fallait quand même un petit, je sais pas, une je pensais directement à une femme. Et je me dis, bon, quand même, quelqu'un comparé, justement, on nous dit qu'elle est pas belle, mais...
Ouais, mais quand même.
Je sais pas. Du coup, moi, j'ai pensé, je sais pas si tu connais Daisy Ridley, celle qui joue Ren dans Star Wars, la nouvelle trilogie.
Et c'est hyper drôle parce que moi aussi, j'ai mis une actrice de la franchise Star Wars. Trop marrant. J'ai mis... attends, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah non, je l'ai enlevée, en fait. Je crois que c'était Kathleen Dever. Elle a joué dans Rogue One.
Ah oui, ok. Oui, je vois.
Et sinon, j'avais mis...
Très bien aussi.
Bah, ça ouais. Colle. En fait, je vois vraiment, entre guillemets, quelqu'un d'un peu banal. Sinon, après, il y avait Bonnie Wright, qui joue dans Harry Potter, qui est Ginny.
Ginny, oui, j'allais dire, oui.
Donc ça collait pas mal. Et après, c'était des actrices beaucoup plus jeunes, mais qui ont quand même 25 ans. Donc, il y a Kathy Douglas.
Ok, elle joue dans quoi?
Elle joue dans Ginny et Georgia. C'est une série sur
oui.
Netflix. Et sinon, il y a Kiernan Shipka.
Ah, pas mal, oui.
Qui a joué dans plusieurs films et séries, dont notamment Sabrina l'apprentie sorcière. Et après, en actrice plus... Alors là, pour le coup, beaucoup plus âgée, qui ont la quarantaine, il y avait Lindsay Fonseca.
Ok.
Mais voilà, c'est vraiment des personnages très...
Ouais, je vois.
Enfin, un peu la petite fille, machin.
Ouais,
c'est vrai qu'elles sont... Bon, après, voilà, pour un film, tu les mochifies un peu, ça passe. Mais ça reste, quand même, ça reste quand même des... Voilà, des...
Ah, on est quand même dans la même un peu vibe, je trouve.
Oui, c'est la même.
C'est vrai.
Ouais. Et du coup, tu avais mis qui pour... on fait qui? On garde Roselyne pour la fin ou
ouais.
Bérénil? Non, Bérénil, parce qu'on a dit qu'on avait peut-être la même.
Là, je sais, ouais, on verra. Ok, on se la garde pour la fin, alors.
Du coup, pour Fionn, pour Roselyne.
Oh, putain, on a mis la même, ça veut dire.
T'as mis qui?
J'ai mis Fiona Shaw.
Mais pareil!
C'est Tante Pétunia.
Mais oui. Tante Pétunia dans Harry Potter.
Trop drôle.
Elle colle trop bien au rôle.
Et c'est une actrice, enfin, moi j'adore. J'ai
elle
dernièrement dans Killing Eve, incroyable.
Elle joue très très bien.
Vraiment.
Et vraiment, elle a la tête de
ouais.
Roselyne. Dans ma tête, je me dis oui, c'est trop.
Et je voyais bien son petit air pincé. En fait, l'attitude british, tout de suite, j'ai pitché ça.
Ouais. Okay. Mais avec un grand cœur quand même derrière, qui voilà, prend soin d'Ophélie, etc. Je suis d'accord.
Très mignonne d'ailleurs, leur relation toutes les deux.
Ouais. Et du coup, notre dernière, Bérénilde.
Bah moi, j'ai pensé tout de suite ça m'a fait penser à Madame Coulthard dans Les Royaumes du Nord.
Ah oui.
Le perso. Et donc, tout de suite, je l'ai associé à Nicole Kidman.
Oh purée, c'est vrai que... Ouais, j'ai hésité aussi, mais moi j'aurais mis celle qui joue Coin dans Hunger Games. Bref. Mais moi j'avais pas mis elle, j'avais mis Eva Green.
Ah, j'adore Eva Green,
voilà.
Mais effectivement,
mais moi,
un peu froide.
Ouais, okay. Mais tu vois, un peu malicieuse et tout.
Mm-hmm.
Mais du coup, elle a pas les cheveux...
Non, pas blonde.
Bah non, mais je me souvenais pas qu'ils étaient blonds. Ça me zappait. Mais oui.
Ok, moi bien.
Vous avez d'autres propositions à faire, mais ouais. Ah, c'est trop marrant qu'on ait mis la même pour Roselyne.
Pour Roselyne, ouais. Un perso, je crois que c'est mon perso préféré, en vrai. Je suis hyper attachée à ce perso.
À Tante Roselyne.
Ouais, j'adore.
C'est vrai.
J'adore Tante Roselyne.
C'est vrai qu'elle est... Ouais. C'est vraiment qu'elle a le côté, oui, comme tu dis, un peu pince sans rire, mais en fait, elle défend bec et ongles et elle se débrouille bien. Elle donne quand même pas mal de conseils avisés à Ophélie.
Ouais. Et puis toujours les traits d'humour, ça vient d'elle avec des expressions que l'auteur invente.
Oui, ah, c'est vrai, c'est vrai. J'avais
Et
oublié.
j'adore, enfin, ouais, c'était très, c'est mon, ma came,
Ah, je sais
ce genre
pas.
de perso.
Moi, j'aime bien Thorne.
Ouais, bah oui.
Bon, c'est un peu classique, mais
Ouais.
voilà, c'est un personnage
On
qui est bien
apprend à
écrit.
l'aimer. Et c'est ça aussi la force, peut-être, de l'histoire.
Oui, c'est que les
Ouais.
personnages, ils se découvrent vraiment au fur et à mesure. En fait, on ne sait pas dès le départ
Ouais.
comment ils sont, parce que voilà, il y a plein, c'est ce qu'on dit, il y a plein de personnages, tu lis 10 pages, tu sais déjà que, en fait, le mec torturé, blablabla. Alors que là, non, en fait. Ça, enfin, c'est bien écrit.
Clairement.
Et c'est une bonne lecture. Et du coup, on va s'attaquer au tome 2.
Et au tome 2, qui s'appelle Les disparus du clair de lune.
Voilà, donc on espère que vous serez là aussi pour le second épisode de cette tétralogie. Voilà, on compte sur vous en tout cas, et merci de nous avoir écoutés.
Salut!